ainsi s'achève cette messe du 27e dimanche du temps ordinaire, célébrée à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Nous remercions le Père Régis Morlon qui a présidé et prêché, Reine-Grâce Hotessiquet pour les chants, Nariné Courchoudian à l'orgue et pour la prise de son, Yvan Charby et Marc Garvenès. Dimanche prochain, nous serons à nouveau à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le Père Emmanuel Coquet. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public, l'émission qui prend le temps d'analyser l'actualité nationale et internationale avec des intellectuels et sur le ton de la conversation. Aujourd'hui, Israël-Palestine, quel avenir, 2 ans après le 7 octobre. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
C'est une grande journée. Peut-être même la plus belle journée de l'histoire de la civilisation. Alors que voilà, le monde dure depuis de nombreuses années, mais là, cette guerre aussi, et je pense que nous arrivons vers la fin de celle-ci. Nous travaillons bien ensemble, et d'ailleurs avec d'autres pays aussi. C'est la seule d'ailleurs façon de sortir de cette situation. Et je ne parle pas juste de Gaza. On parle d'au-delà de la situation à Gaza. Tout ça, ça s'appelle la paix au Moyen-Orient.
Donald Trump, ici traduit par nos confrères de France 24, le lundi 29 septembre, depuis la Maison-Blanche à Washington, en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il présentait le plan de paix pour Gaza en 20 points, dont la libération de tous les otages, une condition acceptée vendredi 3 octobre par le Hamas, même si de nombreux points de cet accord ne semblent convenir ni à Benjamin Netanyahou, ni aux dirigeants du Hamas. Les parties sont aujourd'hui au Caire, en Égypte, pour négocier les détails de ce plan qui pourrait mettre fin à la guerre, alors que pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, des journalistes internationaux ont pu se rendre dans la ville de Gaza. Invivable et anéanti, décrit le correspondant du Monde à Jérusalem qui fait partie de cela. Dans 2 jours, le 7 octobre et les 2 ans d'une attaque terroriste sans précédent sur le sol israélien en 2023, bilan 1219 morts, près de 5000 blessés, 251 otages, dont 47 encore aux mains du Hamas. Sans précédent non plus, la réplique de l'armée israélienne sur la bande de Gaza depuis 2 ans, bilan plus de 66 000 morts, 170 000 blessés, des millions de tonnes de débris et 800 000 déplacés pour la seule ville de Gaza City. Alors derrière l'espoir d'un cessez-le-feu et de la libération des otages, comment penser l'après dans la région? Que vaut le plan pour la paix de Donald Trump? À 2 jours des 2 ans du 7 octobre, dans quel état est la société civile et politique israélienne? Si l'état de Palestine a été reconnu depuis la guerre de Gaza par une quinzaine de nouveaux pays, dont la France, quelle reconstruction possible alors que les plus grands manias immobiliers du monde se penchent déjà sur son berceau? Enfin, si le Proche-Orient nous tend un miroir, comme le pose Ziad Majed dans son dernier ouvrage, alors à quoi ressemble notre reflet à à l'aune de ce conflit. Pour en parler, je suis très heureuse de vous accueillir. Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes politiste, professeur à l'université américaine et auteur de ce livre, Le Proche-Orient, miroir du monde, qui sort jeudi 9 octobre chez La Découverte. En face de vous, à Paris, dans ce studio, Amélie Ferret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Dominique Moïsi, juste à côté de vous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et à distance depuis Tel Aviv, j'accueille Michel Taubman. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là, journaliste franco-israélien, responsable du dossier Proche-Orient pour la revue politique internationale, fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Et j'aimerais commencer avec vous, quelle est l'ambiance à Tel Aviv après cette annonce du Hamas vendredi? Bien sûr, il y a eu ces manifestations sur la place des otages, est-ce qu'elles avaient une saveur particulière?
Bien, écoutez, hier donc je suis allé sur la place des otages. C'est peut-être la 20e, 30e fois, 40e fois que j'y vais le samedi soir. Ces dernières semaines, avec mon épouse, nous n'y sommes pas allés parce qu'on trouvait ça trop oppressant. Vous voyez ce rite, chaque semaine, la même chose, les parents qui pleurent, qui crient, qui supplient le président Trump de faire libérer les otages, qui s'en prennent souvent à Netanyahou. Mais ce sentiment d'impuissance et puis ce rituel où les gens de Tel Aviv, et puis c'est aussi le cas un peu à Jérusalem, les gens de Tel Aviv, chaque semaine y vont, par solidarité et puis en se disant est-ce que ça sert à quelque chose. Là, hier, il y avait des dizaines de milliers de personnes. On a annoncé 100 000 personnes, ça je sais pas, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, il y avait un espoir fragile, hein, mais quand même, cette possibilité de sortir enfin du 7 octobre. Parce que cette place des otages, je dirais qu'elle est le symbole du fait que les pendules se sont arrêtées en Israël le 7 octobre. C'est une chose qui est très compliquée à comprendre à l'extérieur, mais le pays s'est figé dans cette douleur, dans cette torpeur. Et ce qui est significatif, c'est que en dehors de la place des otages, il y a des manifestants plus à gauche, plus politisés, qui manifestent contre la guerre, avec des portraits des enfants de Gaza, mais qui sont minoritaires. Et puis il y avait des discussions. Pourquoi est-ce que on ne met pas en avant aussi les civils palestiniens? Pourquoi est-ce que on ne parle que des otages, que des soldats? Et je pense que si on arrive à un accord dans les prochains jours, et si nous ne retournons pas place des otages samedi, les portes vont s'ouvrir sur autre chose. Alors, ça ne sera pas le plus grand jour de la civilisation et la paix éternelle, comme l'a dit Donald Trump, mais ça sera peut-être la possibilité pour la société israélienne de tourner la page et de pouvoir enfin regarder devant soi et non plus derrière soi. Voilà. Mais sur la place des otages, il y a quelque chose qui est très significatif. C'est une espèce de pendule, vous savez, avec les chiffres, en fait, 528e jour, 12 heures, 24 minutes, 35 secondes. Et j'espère que cela va s'arrêter dans quelques jours. Voilà.
Dominique Moïsi, il faut rester bien sûr très prudent, mais enfin on sent comme une accélération de l'histoire avec ces négociations dont je parlais en introduction au Caire. Ce plan qui semble quand même à moitié, on va rentrer dans le détail, hein, accepté par les deux parties, en tout cas Benjamin Netanyahou et le Hamas. Si on y arrive, si comme le prédit le Premier ministre israélien, les otages sont tous de retour en Israël cette semaine, puisqu'il faut soit le président Trump a posé 72 heures, hein, je le rappelle, de délai après un cessez-le-feu pour rendre ses otages, ce sera incontestablement une victoire pour le président américain.
Oui, il se rapproche du prix Nobel de la paix dans son esprit. Le dossier ukrainien n'était pas porteur. Il a été, il l'a dit, déçu par cet homme qui l'emmenait en bateau, Vladimir Poutine. Le dossier moyen-oriental est peut-être bien meilleur. D'ailleurs, sur un plan strictement politique, il intéresse beaucoup plus les Américains que la question ukrainienne. Trump écoute quand même l'opinion publique. Il voit que si lui arrive à faire libérer les otages, eh bien, soudain, on le prendra au sérieux. On se dira, mais c'est pas un clown. Alors, il reste, bien entendu, Donald Trump. Il est dans la modestie traditionnelle. L'acte plus important au cours des 3000 dernières années. C'en est presque amusant. Mais je pense qu'il faut prendre ce plan au sérieux parce qu'il arrive au bon moment. Je crois que c'est le calendrier qui est, me semble, décisif.
Ziad Majed.
Oui, je pense que c'est un plan sérieux, évidemment, et il y a pour le moment des signes positifs s'agissant du cessez-le-feu, s'agissant de la libération des otages. Hamas, selon les sources qataries, ils attendent aussi la réponse israélienne par rapport au calendrier de la libération des détenus palestiniens. Et quelle garantie, après la libération des otages, que le cessez-le-feu va être respecté par Israël. Et puis, il y a toute la question de l'après, évidemment, qui est très importante. Et on n'a pas, pour le moment, suffisamment d'éléments pour montrer que c'est un plan durable qui va tourner la page de cette guerre génocidaire. Mais de toute façon, pour les Palestiniens de Gaza, il y a aujourd'hui une priorité avant la politique, c'est celle de la survie. Donc un cessez-le-feu avec l'aide humanitaire, mettre fin à la famine orchestrée, en finir avec les morts quotidiens, c'est certainement une bonne chose pour pouvoir repenser la reconstruction et la survie sur leur terre.
Amélie Ferret, on en a vu hein, des cessez-le-feu non respectés, des plans qui ont échoué depuis 2 ans. Pourquoi celui-ci, à votre avis, peut-il avoir plus de chances d'être maintenu ? Alors, on va détailler bien sûr les points qui font débat et qui ne semblent pas vraiment acceptés encore, mais prenons les premiers, cessez-le-feu immédiat, libération de tous les otages, reconstruction du territoire.
Mais en fait, il faut quand même voir qu'il y avait une volonté du Hamas avant même la proposition de ce plan-là de parvenir à un accord avec Israël. Enfin, ils avaient contacté directement Trump, ils avaient même accepté un plan israélien et les Israéliens finalement s'étaient retirés. Du côté israélien, je pense qu'il y a eu quand même une bascule avec cette frappe au Qatar qui n'a pas réussi en fait à éliminer les dirigeants du Hamas. Donc cette idée que finalement cette opportunité-là elle est passée, donc il faut avancer. Il y a quand même une opposition aussi assez forte, même de la part du chef d'état-major Eyal Zamir, sur une occupation encore plus durable, parce qu'il y a une fatigue, les réservistes ne veulent plus aller à Gaza, même s'ils y vont quand même, mais il y a un coût économique, et puis surtout, si on prend un peu la temporalité, il y a eu quand même l'initiative française, et ça, il faut le souligner. D'ailleurs, même des journalistes de Haaretz, qui justement avaient beaucoup moqué cette initiative, soulignent le fait que la basse de 12 pays occidentaux qui reconnaissent l'État de Palestine change quand même la dynamique. Après, comme vous l'avez dit, il faut quand même être très prudent, parce que moi, personnellement, je vois pas très bien comment Netanyahou, qui s'est autant avancé dans cette volonté de faire le grand Israël, qui est vu comme, sans mauvais jeu de mots, le Messie par l'extrême droite, en fait, qui voit comme Netanyahou comme justement l'incarnation de quelqu'un qui peut rendre possible cette vision du grand Israël, qui a quand même utilisé le levier militaire avec une puissance maximale à cette fin. Comment d'un coup, sans qu'on comprenne exactement pourquoi, il retourne complètement à sa vision et il abandonne ce projet-là.
Michel Taubman, justement, quelle est la situation en ce moment politique en Israël ? Est-ce qu'on pourrait assister à un renversement d'alliance, puisqu'on a vu les ministres d'extrême droite de Benjamin Netanyahou extrêmement en colère par l'acceptation par le Premier ministre israélien de ce plan ? Et lui-même est resté quand même assez ambigu. Je vous cite 2 exemples. Visiblement, le plan de Donald Trump prévoit la création d'un État palestinien. Benjamin Netanyahou n'en veut pas. Le plan de Donald Trump prévoit le retrait progressif de l'armée israélienne. Benjamin Netanyahou a affirmé dans les jours qui ont suivi cette conférence de presse qu'elle resterait.
Oui, alors pour ce qui concerne l'État palestinien, vous savez, c'est comme l'horizon, plus on s'en approche, plus il s'éloigne, et je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, ni d'un côté ni de l'autre, puisque dans ce processus, comme dans les processus précédents qui ont échoué d'ailleurs, le problème c'est qu'on met des étapes et que chaque étape peut être l'objet d'un conflit et d'une rupture. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour les Israéliens, et je crois pour les Palestiniens, et pour la première fois depuis longtemps, Israéliens et Palestiniens ont le même intérêt et ressentent la même chose, c'est que les combats s'arrêtent. Il y a des sondages réguliers qui montrent l'impopularité de la guerre ici. Alors, qui s'ajoute d'ailleurs à cette cause sacrée des otages, hein, cette cause qui est véritablement sacrée des otages pour tous les Israéliens, ou pour 80% des Israéliens. Et face à ça, finalement, Netanyahou, qui est quand même un grand politique, qui est un homme cynique, sans scrupules, pas très honnête, mais qui est un grand politique, il va essayer encore une fois de plus de rebondir, c'est-à-dire, on l'a vu dans son discours hier, de s'attribuer tous les mérites de la libération des otages, de la fin de la guerre, etc. Mais la question d'un État palestinien n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, et de toute façon, on va plutôt revenir à la situation antérieure au 6 octobre, c'est-à-dire une bande de Gaza qui serait, dans le meilleur des cas, géré par des Palestiniens, encadré par des pays arabes. Et puis, la question de la Cisjordanie, qui n'est pas réglée. Mais la question d'un État palestinien dans les frontières de 67, etc., avec une continuité territoriale, tout ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Mais c'est un long processus. Et c'est vrai que ça ne se fera pas avec ce gouvernement, de toute façon. Alors, pendant longtemps, les gens manifestaient ici et les sondages montraient que Netanyahou était très impopulaire. Je ne sais pas si ce nouveau rebondissement va le rendre encore plus populaire, parce que c'est vraiment les montagnes russes. Vous voyez, après la guerre avec l'Iran, Netanyahou a remonté. Et puis après, il a redescendu. Après, il a remonté. De toute façon, aujourd'hui, la question des élections anticipées n'est plus très importante, puisque dans le pire des cas, les élections auront lieu à leur date prévue en octobre 2026. Donc on va entrer en campagne électorale. Et tous les sondages indiquent que si le parti Likoud peut faire un bon score, Netanyahou et la coalition de Netanyahou serait minoritaire. Alors face à lui, c'est une coalition hétéroclite qui s'imposerait. Hein, mais il y a un rejet de cette coalition. Et par exemple, les partis d'extrême droite qui sont très 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 influents du point de vue de la politique menée, du point de vue des mots d'ordre, de la réoccupation de Gaza, de la colonisation de Gaza, etc. Et ça, c'est la route leur a été barrée aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est un des éléments importants du plan Trump. Ces partis d'extrême droite, dans les sondages, ne gagnent pas des voix. Hein. Donc attendons peut-être dans quelques mois un changement de gouvernement. Et peut-être à ce moment-là, si les choses se consolident. Mais malheureusement, dans cette région, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et même s'il y avait la meilleure volonté du monde des deux côtés, ce qui n'est pas le cas, on n'est pas à l'abri malheureusement d'une catastrophe, d'un attentat, de colons qui en Cisjordanie iraient tuer une famille arabe, ou le contraire, des Palestiniens du Hamas ou autre organisation qui iraient égorger une famille juive. Donc on est vraiment, on vit au jour le jour, et l'essentiel, c'est déjà que les otages soient libérés, que les combats cessent, que l'aide alimentaire puisse rentrer à Gaza, et que l'armée israélienne, évidemment, tienne ses promesses, c'est-à-dire qu'elle se retire de Gaza, que se mette en place une force internationale, et ce sera déjà beaucoup, 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 et que tout cela tienne plus que quelques semaines.
Il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies le 22 septembre 2025. La France reconnaît l'État de Palestine sous les applaudissements. Ziad Majed, est-ce que vous partagez ce que nous disait Michel Taubman à l'instant? Il n'y aura pas d'État palestinien, ou au contraire, le président français en menant tous ces autres États, a eu une formidable intuition et qu'au contraire, peut-être qu'il verra le jour. Emmanuel Macron avait même parlé d'une ambassade de France dans le futur État palestinien, conditionnée à la libération de tous les otages.
Oui, alors peut-être il faut rappeler dans ce genre de moment la formule attribuée à Gramsci, pessimisme de l'intellect, optimisme de la volonté. Je pense qu'il y a des bonnes volontés et que la reconnaissance de l'État palestinien par la France... a certainement bousculé un certain statu quo, qu'il y a une nouveauté à ce niveau, mais elle n'est pas suffisante comme déclaration ni comme reconnaissance, parce que le problème n'est pas juste la question de cette reconnaissance, mais comment traduire cela sur le terrain en une réalité politique. Et cela ne peut pas passer aujourd'hui sans sanctions contre l'occupation, contre la colonisation illégale. Et je suis très surpris que ce soit au niveau de ce qu'a dit Emmanuel Macron ou évidemment de ce que raconte Donald Trump, l'absence totale du droit international. Le droit international n'a jamais été évoqué. D'ailleurs, si on évoque le droit international, il faut rappeler que Netanyahou n'est pas juste confronté à des difficultés politiques en Israël. Il est poursuivi par la justice israélienne, mais ça c'est une autre question. Par contre, il est sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité selon la Cour pénale internationale. Son ministre de la Défense l'est également. Il y a une série de rapports et de positions qui ont été émises par des organisations internationales, par la majorité des juristes dans le monde, qui parlent non seulement de crimes contre l'humanité, mais du crime de génocide. Donc la question se pose par rapport à quelles sanctions la France et la communauté internationale, quel genre de sanctions sont possibles face à un État qui occupe le territoire d'un État maintenant qui est reconnu, face à un État qui colonise le territoire d'un État qui est reconnu, qui refuse sa souveraineté, qui a même voté au niveau du Parlement israélien contre la reconnaissance d'un État pareil et contre sa potentialité, qui maintient la colonisation et qui avait promis une annexion de la Cisjordanie, où il y a aujourd'hui entre 700 et 800 000 colons, Cisjordanie et Jérusalem-Est. Donc, comment faire face à cette situation? Reconnaître la Palestine, oui, mais il faut des sanctions, il faut que les mandats d'arrêt soient respectés, il faut une dynamique qui remet le droit international au centre de la question et qui ne le garde pas, comme ça a été le cas, méprisé, et donc donnant aussi des prétextes et des arguments à tous ceux qui souhaitent le mépriser dans la région comme à travers le monde.
Dominique Moïsi.
Si le souci premier qui est le nôtre est celui des peuples palestiniens et israéliens, si nous considérons que ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux est le début, pour la première fois, d'un espoir d'arrêt des hostilités, de libération des otages et en échange des Palestiniens, la question n'est pas celle des sanctions à l'égard du gouvernement israélien. Le droit international est essentiel et il n'a pas été respecté. Mais il y a une priorité. Pour la première fois, Israéliens et Palestiniens, représentés par le Hamas aujourd'hui, sont forcés de céder devant les pressions de l'Amérique. Parce que Israël n'a jamais été plus isolé sur la scène internationale, parce que le peuple israélien souhaite un arrêt des hostilités, parce que le Hamas voit bien que le rapport des forces dans la région a évolué à son détriment, qu'il n'est plus soutenu par un Iran fort, comme c'était le cas hier, que les pays arabo-musulmans sont derrière le plan Trump. Dans ce contexte, il faut jouer momentanément, je dirais, le jeu de l'espoir. Revenir immédiatement sur la question des sanctions ne me paraît pas responsable, ni humainement, ni politiquement.
Amélie Ferret, votre avis là-dessus, et puis peut-être un mot aussi sur le plan de Donald Trump par rapport à cette reconnaissance de la Palestine, vous l'avez abordé tout à l'heure. Rappelons, et on va venir dans le détail, que le plan de Donald Trump ne comprend pas la Cisjordanie à ce stade. Donc quel avenir pour la Palestine aussi? Est-ce que c'est pas seulement Gaza qui l'intéresse?
Oui, tout à fait. Ben, on a cité Gramsci, moi je vais citer Peggy. Hein. C'est-à-dire que la vertu la plus difficile à cultiver, c'est l'espérance. Et pour animer l'espérance, il faut d'abord de l'inquiétude. Donc aujourd'hui, c'est quand même de l'inquiétude qui prévaut. Et inquiétude pourquoi ? Moi, je pense que, comme je le disais, en fait, il n'y a pas de changement de logiciel politique qui est mise en œuvre par le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien ne reconnaît pas que effectivement il y a eu des violations du droit international à Gaza, qu'il faut aller vers la paix et qu'il faut un État palestinien. Absolument pas. On a eu un sondage de l'Institut démocratique israélien qui dit que 62% des Israéliens sont contre un État palestinien. Il y a eu cette loi à la Knesset. Donc voilà. Donc du coup, comment on fait pour justement garantir la paix? En fait, je pense que ça, c'est vraiment la leçon depuis 2022. Il faut réinvestir le rapport de force. Et en Europe particulièrement. C'est-à-dire que les gens qui financent aujourd'hui l'autorité palestinienne, c'est quand même les Européens. Les gens qui ont le plus de liens économiques avec Israël, c'est les Européens. Est-ce que les Européens sont présents dans ce plan? Non. Donc il faut, voilà, si on veut qu'il y ait la paix et si on veut pas se contenter de formules incantatoires, il faut réinvestir ce rapport de force. Et par ailleurs, sur le plan en tant que tel, peut-être qu'on peut du coup le présenter voilà, rapidement. En fait, le problème, c'est que moi, premièrement, il ne répond pas à l'aspiration du peuple palestinien à la souveraineté. Et je veux dire, tout le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 ans d'études pour le comprendre. C'est un conflit entre deux peuples qui revendiquent un droit à la souveraineté. Il y en a un qui a eu un État, il y en a un autre qui n'a pas eu d'État. Donc à partir du moment où on ne reconnaît pas le droit d'un des peuples à avoir un État, ça va être quand même compliqué. Deuxièmement, c'est une approche qui, à mon sens, et néocolonial, en fait, du plan. C'est-à-dire que vous avez une sorte de création, donc, d'une holding avec un conseil d'administration présidé par Trump et des pays arabes, et de l'autre, ce qui s'appelle l'autorité internationale pour les Gazaouis, avec Tony Blair, donc un Britannique, en plus, vu de l'histoire, puisqu'on se rappelle que la Palestine mandataire, c'était quand même les Britanniques, qui va choisir des participants, donc, des PDG apparemment égyptiens, donc quelques personnes de l'ONU pour quand même faire bonne figure, et des diplomates palestiniens. Donc les Palestiniens vont être donc spectateurs de ce qui va se passer à Gaza et non pas décisionnaires. Donc ça c'est problématique aussi. Et du coup, on a une approche qui est l'approche par le marché, c'est-à-dire, ça c'est la volonté du Golfe aussi, hein, puisque Tony Blair, il a été très présent dans le Golfe. On va créer un grand marché au niveau du Moyen-Orient, et du coup, on va régler tout ça par un truc économique. Et donc, il y a eu un appel d'offres, celui qui a gagné l'appel d'offres, c'est Tony Blair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il va construire des hôpitaux, qu'il va construire des universités? Ou est-ce que ça veut dire qu'il va construire des complexes hôteliers? En fait, on ne sait pas. Et ça, c'est le grand problème de ce plan, c'est-à-dire que, encore une fois, et je termine simplement par là, en fait, on dénie le droit aux Palestiniens de faire de la politique. Donc, on veut qu'ils aient un État apolitique, d'ailleurs, qu'ils soient pas, qu'ils fassent pas vraiment de la politique, mais juste de l'économie. Mais en fait, ça ne va pas régler le problème.
Ziad Majed, oui. Puis Michel Thoman, depuis Tel Aviv.
Oui. Alors, moi, je pense que dans ce plan, il y a une invisibilisation des Palestiniens qui poursuit l'invisibilisation israélienne, l'effacement voulu par Israël du peuple palestinien, puisque dans ce plan, d'un côté, on a une culture qui s'installe, celle des agents immobiliers. Vous savez, Trump est issu de l'immobilier. Son envoyé pour Israël-Palestine, Witkoff, c'est un homme d'affaires dans l'immobilier. Son gendre, Kochner, il est dans l'immobilier.
Est d'ailleurs au cœur.
Il est au cœur de tout ce projet. Et il est aussi connecté directement et indirectement à des colonies illégales en Cisjordanie. Son envoyé spécial pour le Liban et la Syrie, Tom Barak, est un agent immobilier à l'origine et aujourd'hui un milliardaire. Donc il y a une culture d'immobilier qui cherche à reconstruire un territoire sans sa population, ou du moins en invisibilisant sa population. Et j'ajouterai ce qui a été dit, évidemment, avec un Tony Blair qui, dans la région, c'est monsieur guerre d'Irak, des dizaines de milliers de morts civiles contre le droit international. C'est l'idée coloniale, donc un Britannique comme Balfour qui a promis au mouvement sioniste la Palestine en tant que foyer national juif. C'est aussi pour les Palestiniens, il y a un écho, il y a un parallélisme. Donc c'est un projet qui, encore une fois, je le répète, tant qu'il arrête la mort aujourd'hui et tant qu'il libère les détenus et les otages et les prisonniers, tant mieux. temporairement, mais au niveau politique, c'est un plan à la fois d'immobilier, de néocolonialisme, et c'est un plan qui cherche à dépolitiser la question palestinienne, qui est avant tout une question politique, d'où l'importance des sanctions et d'où l'importance du droit international, en plus de la volonté politique, sinon ça reste entre poésie d'un côté et immobilier et effacement de l'existence politique palestinienne de l'autre.
Michel Taubman.
Oui, vous savez, vous avez dit que j'ai fondé un groupe qui s'appelle Shalom Salam, donc j'ai des relations avec des Palestiniens de l'intérieur d'Israël, donc des citoyens israéliens palestiniens, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, des Palestiniens de Jérusalem-Est, d'autres des territoires, et ils sont beaucoup moins critiques que notre interlocuteur qui vient de parler, parce que eux, ils sont évidemment sur le terrain, et donc ici, ce qui compte, c'est quand même le plus important, c'est d'une part que les combats vont s'arrêter, d'autre part qu'il s'agit d'une défaite de l'extrême droite suprémaciste israélienne de Ben Gvir et Smotrich, c'est-à-dire la colonisation de Gaza, pour l'instant, est arrêtée et on voit mal comment elle pourrait reprendre alors que tous les pays arabes ont fait barrage, que l'Europe a fait barrage, que Macron a fait barrage et que Trump a fait barrage. Donc ils voient ça et surtout, ces Palestiniens, je dirais, modérés, ils voient que une chance leur est offerte et qu'il faut la saisir. Et donc maintenant, je partage, je comprends toutes les critiques qui sont faites sur ce qui va se passer après, sur Blair, etc. Mais tout ça, c'est tellement hypothétique. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a eu une défaite, c'est une défaite de l'extrême droite israélienne. Je ne parle pas de Netanyahou, hein, mais je parle de l'extrême droite israélienne et de sa volonté de recoloniser Gaza. C'est une défaite relatif du Hamas, parce que le Hamas continuera d'exister, peut-être autrement. Hein, quand Arafat est parti de Beyrouth en 82, c'était une défaite et en même temps, il a continué d'exister autrement. C'est une victoire pour les Gazaouis et pour les Palestiniens, parce qu'ils vont cesser de mourir de faim et d'être bombardés. Et c'est une victoire aussi pour le pays, pour le peuple d'Israël et pour les Israéliens, parce que leurs soldats ne vont pas s'embourber dans une guerre interminable à la fin de laquelle, de toute façon, Israël perdrait. Car on a l'expérience historique de tous ces conflits, tout ce type de conflits, même les armées les plus puissantes, face à une guérilla en milieu urbain, avec en plus des tunnels, la défaite était assurée pour Israël, et ça, tous les militaires ici le disent. Donc, d'une certaine manière, une chance fugace, éphémère, qui ne durera peut-être pas longtemps, est donnée aux deux sociétés, israéliennes et palestiniennes, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle des sociétés civiles. Ce mouvement qui existe en Israël depuis plus de 2 ans, parce que c'était avant la guerre, pour la démocratie israélienne, pour sauvegarder un état de droit, qui ne posait pas la question des Palestiniens, mais qui sera obligé de se poser cette question aussi. Les Arabes israéliens qui sont intégrés à Israël malgré des problèmes, malgré la loi État-nation, etc. Il y a aussi dans la société palestinienne une nouvelle génération de gens qui sont cultivés, qui sont formés, qui sont compétents et qui sont prêts à assurer la relève du Fatah, des nationalistes et des islamistes. Donc il y a des facteurs d'espoir, il y a des germes d'espoir. Et je comprends très bien tout ce qui est dit. On peut voir tous les dangers, tous les pièges des prochaines années. Mais je pense qu'il est aujourd'hui essentiel de soutenir la société civile israélienne qui va se réveiller de cette souffrance épouvantable de l'après 7 octobre et qui va se tourner à nouveau vers l'extérieur et qui va découvrir ce qui s'est passé à Gaza. Et puis des Palestiniens qui vont avoir la possibilité de reprendre leur destin en main. Donc c'est ça qu'il faut soutenir, plus que de condamner, de sanctionner, etc. Le temps viendra où il faudra évidemment que soient jugés les uns et les autres, hein, parce que ça a commencé, cette guerre a commencé, par une tentative de génocide de la part du Hamas qui est entrée à l'intérieur des frontières légales d'Israël. Et cette guerre s'est poursuivie par une riposte dont certains aspects sont évidemment disproportionnés, par des choses qui doivent être jugées par la justice israélienne et la justice internationale, mais l'heure aujourd'hui est à ouvrir des perspectives et à ouvrir des perspectives d'histoire pour les deux peuples.
C'est bien entendu, Michel Taubman.
Voilà.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Vilaine.
Et nous sommes toujours en direct et en compagnie d'Amélie Ferrer, responsable du laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI, Ziad Majed, politiste, professeur à l'université américaine, auteur du Proche-Orient, Miroir du Monde, qui sort jeudi 9 octobre, Dominique Moïsi, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, et Michel Thoman, qu'on vient d'entendre depuis Tel Aviv, journaliste franco-israélien, responsable du dossier Proche-Orient pour la revue Politique Internationale. On sent vos désaccords, vos visions qui peuvent diverger, mais enfin, j'ai quand même la sensation que vous êtes d'accord sur une chose, qui semble d'ailleurs partagée dans le monde en ce moment, c'est une forme de court-termisme, c'est-à-dire qu'il y a une urgence à ce que les otages rentrent en Israël, à ce que les cessez-le-feu, que le cessez-le-feu soit effectif à Gaza, etc. Mais enfin, en revanche, que ce plan-là, ça va être difficile d'aller jusqu'au bout. Je citais tout à l'heure le hiatus qu'il pouvait y avoir par rapport aux déclarations de Benjamin Netanyahou sur ce plan de Trump. Il y a la même chose du côté du Hamas sur le statut de Gaza et l'avenir politique. Il demande un cadre palestinien global et donc pas du tout une transition internationale sur l'administration de Gaza. Même chose, il réclame un organisme palestinien indépendant. Dominique Moïsi.
Oui, mais le court-termisme, c'est l'essentiel aujourd'hui. Il s'agit d'arrêter le sang de couler. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a eu un avant et un après 7 octobre. Et à quel point il y aura un avant et un après la libération des otages. Ce ne sera plus le même conflit, ce ne sera plus la même approche. Et dans ce contexte, me semble-t-il, il faut bien entendu dissocier l'arrêt des hostilités et la paix. La paix, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Maintenant, je crois qu'en mettant l'accent exclusivement sur ce qui fâche, c'est-à-dire la dimension néocoloniale, Tony Blair. C'est vrai que ça pose un problème. La dimension immobilière. Oui, mais le plan Trump aujourd'hui n'a rien à voir avec la Riviera à Gaza. Donc on a complètement changé, me semble-t-il, de vision. Il ne dit pas il faut évacuer les populations gazaouis. Il dit ceux qui veulent rester peuvent rester. Ça n'était pas du tout ce qu'il disait il y a 6 mois. Donc je crois qu'il est important de mettre l'accent sur ce qui peut changer et ne pas rechercher systématiquement ce qui ne va pas. Parce que si vous mettez l'accent sur ce qui ne va pas, effectivement, ça n'ira pas. Il y a une toute petite porte étroite. Essayons de l'entrouvrir.
Alors, moi, je comprends parfaitement le point de vue qui cherche à trouver tout ce qui est positif dans une situation catastrophique, tragique. Mais vous savez, la question palestinienne et l'occupation israélienne et les opérations militaires n'ont pas commencé le 7 octobre. Parce qu'il y a un récit dominant aussi qui veut que l'histoire commence un 7 octobre 2023. Je peux comprendre le traumatisme qu'a causé le 7 octobre, notamment par rapport au massacre des civils. Je peux comprendre que dans la société israélienne, il y a eu un choc le 7 octobre parce que cette société n'a pas voulu, pendant des décennies, regarder, comme le dit beaucoup d'intellectuels israéliens, regarder un miroir ou regarder au-delà de la frontière légale, entre guillemets, israélienne, c'est-à-dire de voir ce qui se passe dans les territoires occupés, de voir que Gaza est sous blocus depuis 2007, de voir qu'Israël a mené plusieurs guerres contre Gaza avant 2023, de voir que les colons tuent chaque année des dizaines de civils palestiniens en Cisjordanie, protégés par l'armée et protégés par un budget de l'État d'Israël, donc des Israéliens eux-mêmes. Donc, il y a un problème à ce niveau-là qui n'a pas été réglé non plus par rapport à cette volonté d'imposer le 7 octobre comme étant le début de l'histoire. Or, il n'a pas été le début, il n'est pas évidemment la fin de l'histoire. Et c'est vrai qu'il faut voir ce qui est positif. Et ce qui est positif, je l'ai dit, c'est l'arrêt des hostilités, c'est la fin de cette guerre génocidaire. Et on a tous des amis palestiniens qui vivent soit en Israël, soit à Gaza même, dont les familles ont été génocidées, en Cisjordanie, et au niveau de la diaspora des réfugiés palestiniens dans le monde. Il est vrai qu'ils veulent tous la fin de la guerre, de la famine, de la mort, de la destruction du système de vie à Gaza, de tout ce qui permet à la vie de se poursuivre. Mais ce conflit et cette question-là est devant nous depuis très très longtemps maintenant. Et il faut trouver des solutions politiques. Et les solutions politiques ne peuvent pas passer par l'impunité qui a pendant très longtemps régné et qui a rendu Israël un État impuni qui peut commettre toutes sortes de violations du droit international sans jamais être questionné. Il a envahi le Liban en 82 et tué 20 000 civils pendant deux mois. J'ai vécu cette guerre moi-même. Il n'y a eu aucune sanction, aucune mesure après. Il y a eu une série de guerres, il y a une colonisation. La Cour internationale de justice a qualifié l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est de régime d'apartheid, ce qui est un crime contre l'humanité. Aucune sanction n'a été prise. Donc c'est cette impunité qui rend, à mon sens, en partie, la résolution du conflit impossible aujourd'hui. D'où je l'évoque régulièrement, même si je suis pour tout ce qui est positif dans n'importe quel plan.
Et on va parler ensuite de quel reflet peut-on voir dans le miroir du monde qu'est le Proche-Orient, selon vous, Ziad Majed. Allez-y, Amélie Ferret.
Mais justement, moi, c'est sur le plan de l'Occident. Enfin, pour moi, au contraire, aujourd'hui, être pessimiste et ne pas croire en un monde meilleur, c'est justement penser que la paix n'est pas à l'ordre du jour et se contenter de ce plan, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le vrai pessimisme. C'est quand même un manque d'ambition qui est terrible. Et entendre parler de victoire pour les Gazaouis quand on connaît le nombre de morts à Gaza, je veux dire, c'est absolument terrible. Et donc, je pense que si on décentre et qu'on dézoome un petit peu, on est quand même dans un monde, et l'émission de la semaine dernière que vous avez faite sur la démocratie, sur ce qui reste de la démocratie américaine.
C'est gentil parce que j'allais en parler. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur d'Asma Mala décrit, c'est-à-dire le laboratoire que deviendrait Gaza entre la tech et les grandes puissances? Pardon,
mais c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on reprend, on est quand même dans un monde où l'Occident n'a jamais été aussi challengé. Il est challengé par de l'extérieur, par notamment la Chine, qui offre un modèle alternatif, mais il est aussi challengé par ses propres démons à l'intérieur. Et on le voit sur la trajectoire de la démocratie américaine, et on le voit aussi sur la vision qu'ont du futur les géants de la tech, qui a été très bien décrite d'ailleurs dans l'émission. Donc, et nous, là, le conflit israélo-palestinien, c'est précisément la question des valeurs de l'Occident au défi de la raison d'État. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, finalement, on va refaire du réchauffé en reprenant un petit peu l'idée à la fois d'Oslo, de transition, de comité, et puis justement de projet économique, etc. Et on va rester dans cette ambition court-termiste parce qu'on a quand même l'impression qu'en fait la paix, c'est jamais le bon moment pour la paix pour les Palestiniens. Donc jusqu'à quand, en fait, ils vont devoir attendre? Ça, on ne sait pas. Et vraiment, enfin, pour penser que c'est Donald Trump qui va faire en sorte que les Palestiniens aient un avenir meilleur, lui qui, je veux dire, déporte des migrants chez lui, enfin, il faut quand même se lever de bonheur. Moi, je n'y crois absolument pas. Et donc, ce que je pense, c'est que oui, il faut garder l'espérance. Et l'espérance, aujourd'hui, elle est dans la solution à deux États. Elle a été portée, et d'ailleurs, cocorico, par Emmanuel Macron. Justement, les Palestiniens ont le droit à de l'idéalisme mélangé à du volontarisme. Et quand on reprend l'histoire du sionisme même, en fait, c'est quoi le sionisme? C'est quand même d'abord de l'idéalisme. Je veux dire, qui aurait pu penser qu'il y aurait un État israélien, que l'hébreu renaîtrait de ses cendres et qu'on recréerait une langue moderne à la fin du 19e siècle quand il y avait des pogroms dans toute l'Europe, enfin dans l'Europe de l'Est? Personne. Et pourtant, c'est ça l'idéal sioniste. Donc moi, je pense qu'il faut se baser sur ça et il faut imposer, en utilisant le rapport de force, l'idée d'une paix à la fois pour proposer un avenir meilleur aux Palestiniens, mais aussi et surtout pour proposer un avenir meilleur aux Israéliens eux-mêmes.
J'aimerais vous poser une question toute simple, une question logique toute simple. Est-ce qu'un pays qui commettrait un génocide, qui soi-disant cible la population civile, dirait, avant d'attaquer à ces civils, quitter la zone? Non, on essaie de les écarter du chemin avant d'attaquer, alors que le Hamas essaie de les faire rester. Comparer la situation à un génocide est ridicule.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies le 26 septembre dernier devant une assemblée clairsemée, ici traduit par nos confrères de France 24, une forme de réponse au rapport de la Commission indépendante des Nations Unies qui concluait le 16 septembre, Israël commet un génocide. Alors j'aimerais vous poser la question à tous les quatre, est-ce que vous employez ce terme et est-ce que ces deux discours ne résument pas l'impuissance des Nations Unies en ce moment ? Michel Taubman depuis Tel Aviv.
Alors, je vais vous donner une information que vous connaissez peut-être. Le Washington Post a publié hier un sondage selon lequel 39% des Juifs américains considèrent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Ça, c'est la preuve de la défaite idéologique, politique de Benjamin Netanyahou et d'Israël, puisque le judaïsme américain est en train de s'éloigner si au moins de ce gouvernement et peut-être d'Israël. La deuxième chose, personnellement, je n'utilise pas ce mot génocide. C'est un terme, je veux dire, c'est un terme juridique, pénal, dont j'ai lu la définition. Je pense qu'il est justifié qu'il y ait des enquêtes à l'intérieur d'Israël, sur le plan international, mais pour l'instant, moi, je me refuse à utiliser ce terme pour des raisons politiques et idéologiques, tout simplement parce que si vous voulez la paix, vous réunirez une majorité d'Israéliens pour faire la paix, pour arrêter la guerre et pour avoir de la compassion pour les civils palestiniens. Si vous dites aux Israéliens qu'ils sont un peuple génocidaire, si vous remettez en cause l'identité israélienne et juive à l'heure qu'il est, je ne dis pas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, après des enquêtes, après un jugement, vous êtes contre-productif. Donc personnellement, je n'utilise jamais ce mot.
Ziad Majed.
Oui, moi je l'utilise en connaissance de cause. J'ai écrit un long papier dans Orient 21, décembre 2023, où j'explique pourquoi on est face à un génocide. Je rappelle que la Fédération internationale pour les droits humains a conclu que c'est un génocide en décembre 2023, que la rapporteure des Nations Unies, Francesca Albanese, a conclu cela en mars 2024. Amnesty International a fait de même mai 2024. Human Rights Watch a fait de même juin 2024. Et puis, une dizaine de commissions onusiennes, internationales, a conclu qu'Israël commet un génocide à Gaza. Et récemment, les deux grandes organisations israéliennes des droits humains, après toutes les organisations palestiniennes des droits humains, je parle notamment de B'Tselem et de Physicians for Human Rights, ont conclu qu'Israël commet un génocide. Puis 86% des chercheurs de l'association des historiens et des politistes et des juristes qui travaillent sur le génocide ont voté pour qualifier cela de génocide. Donc, au niveau juridique, il n'y a plus de débat. Le débat, aujourd'hui, est politique. Pour certains, par malaise ou par considération éthique. Pour d'autres, par propagande israélienne qui ne veut pas du tout, encore une fois, faire face à la réalité des choses. C'est que des descendants, en partie, d'anciens survivants du plus grand génocide européen, le Holocauste, peuvent aussi commettre un génocide. Et c'est le cas à Gaza pour moi aujourd'hui, d'où encore une fois l'importance de mettre fin à l'impunité.
Dominique Moïse.
Ben, je crois que le problème, c'est que la Shoah, 6 millions de morts. Le génocide israélien à Gaza, 66 000. Il ne s'agit pas d'avoir une approche quantitative. Ah. De Exactement. La souffrance, ce serait choquant et je la rejette. Mais il s'agit d'essayer d'entrer dans la psyché d'un peuple pour qui Israël a été la condition du « plus jamais ça ». Plus jamais nous ne serons victimes d'un génocide de cette ampleur. Alors, la force terrible du 7 octobre, c'est de remettre en cause le plus jamais ça israélien. C'est de dire aux Israéliens, vous avez fait un État pour que les Juifs partout dans le monde ne soient plus victimes de pogroms. Voyez ce qui s'est passé. Vous avez fait un État pour que plus jamais les Juifs dans le monde ne soient victimes de la famine. Regardez les images que le Hamas a communiqué de ces otages qui semblaient sortir d'Auschwitz. Donc je crois qu'il faut intégrer les émotions, mais toutes les émotions, et ne pas oublier que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas effectivement un point de départ, et là je vous suis tout à fait, mais délégitime totalement, par sa cruauté extrême, le Hamas, à avoir toute responsabilité politique dans le futur. Alors à partir de là, il faut essayer de revenir à la politique. Et la politique suppose précisément que l'on ne cherche pas ce qui peut affaiblir l'autre camp de manière systématique au moment où l'on essaye de trouver une solution avec lui.
Amélie Ferret.
Alors, moi j'ai été très prudente avec l'emploi de ce terme et je ne l'ai pas employé jusqu'à ce qu'il y ait ce rapport justement en septembre 2025 de l'ONU à la suite de différentes... Parce qu'en fait, il y a différentes sphères de validation quand on est chercheur. Et donc là, c'est vrai qu'on a à la fois au niveau juridique les ONG... Les universitaires, parce qu'il y a eu l'association des chercheurs, mais il y a aussi eu des tribunes d'universitaires. Moi, je me souviens, j'ai lu la tribune d'Omer Bartov, qui dans le New York Times a dit, voilà, moi, je suis spécialisée dans le génocide et dans l'étude du génocide des Juifs, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça me fait mal de le dire, mais je reconnais un génocide quand je le vois. Donc, après, moi, voilà, je pense qu'il faut être pragmatique et justement, qui sommes-nous, en fait, pour dire que non, tous ces gens ont tort, alors que c'est quand même des spécialistes. Par ailleurs, je pense que ce qui a obscurci et ce qui est compliqué, en fait, en tout cas, moi, ce qui m'a posé problème et ce qui m'a pris du temps, en fait, pour dire que c'est un génocide, c'est que quand on conduit des entretiens, comme moi, je l'ai fait avec des généraux, des officiers généraux israéliens, en fait, eux, ils expliquent ce qu'ils font avec une rationalité militaire. Donc ils disent, voilà, bah, nous on veut prendre Khan Younes, donc on va faire une manœuvre comme ci, comme ça, on va utiliser la puissance de feu, etc. Et la notion de génocide même, elle est basée sur le côté de l'intention. Et en fait, je pense, bah, pour y avoir beaucoup réfléchi, que pour les Israéliens eux-mêmes, la rationalité militaire de ce qu'ils sont en train de faire, en fait, aveugle les résultats de ça. Et il y a à la fois cette rationalité militaire qui aveugle du coup les conséquences de ce que c'est un génocide, et il y a aussi un fait sociologique, et juste je termine par là, sur le fait qu'aujourd'hui on a quand même une guerre qui est de plus en plus à distance pour des raisons de progrès technologique, et que par ailleurs ceux qui sont au contact, c'est les conscrits. Donc en fait, ceux qui sont au contact direct et qui voient les conséquences de ce qui se passe, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans, qui n'ont pas en fait assez à mon avis, hein, de force et d'esprit critique pour s'inscrire contre, même s'il y en a qui le font, et qui, quand ils rentrent chez eux, en fait, ils n'ont pas envie de parler de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils font à Gaza. Je veux dire, alors là, ils sont là, leur famille les soutient, et voilà. Et donc, du coup, tout ça, effectivement, je pense que dans les mois qui vont suivre l'ouverture de Gaza, il y aura un travail fait par les Israéliens eux-mêmes. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qui est important, c'est de voir les conditions de l'aveuglement sur cette question du génocide.
Ziad Majed, d'un mot.
Alors, moi, je ne pense pas qu'il y a seulement un aveuglement, parce que quand l'Afrique du Sud a présenté son cas contre Israël à la Cour internationale de justice, il y avait déjà 512 déclarations génocidaires par des responsables israéliens, y compris le président, y compris Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale et des officiers de l'armée et des responsables politiques. Donc la question rentre dans le cadre de la définition qui n'est pas au niveau des chiffres, mais au niveau de l'intention et de la destruction d'un groupe ou d'une partie du groupe, ce qui a eu lieu à Gaza.
Ok, alors j'aimerais, comme il nous reste très peu de temps avant vos coups de cœur, qu'on avance un tout petit peu et que vous nous disiez, les uns et les autres, en quoi le Proche-Orient est, selon vous, Ziad Majed, le miroir du monde. Je cite quelques-uns des concepts que vous développez dans ce livre, érosion de l'universalisme, fragilisation des expériences démocratiques, remise en cause profonde du droit international. Et je donnerai ensuite tout de suite la parole à Dominique Moïsi, qui, dans la géopolitique des émotions en 2008, parlait déjà de ce concept de miroir. Allez-y. Ziad Majed.
Ah, non, moi je pense que le Moyen-Orient, depuis longtemps maintenant, reflète à la fois la différence le changement, les ruptures au niveau des relations internationales, au niveau des nouvelles dynamiques qui se développent. Il a souvent été un laboratoire malheureusement de violence, d'impunité, de violation du droit international, mais il a aussi été régulièrement ce qui lance dans le monde ou ce qui cause des mouvements de solidarité, des campagnes. On voit aujourd'hui, par exemple, avec la flottille, avec les millions de gens dans les rues, des sociétés civiles à travers le monde qui veulent mettre fin au génocide, qui veulent la fin de l'impunité, qui veulent que leur gouvernement modifie leur logiciel. L'invisibilisation de certains peuples, la question syrienne pendant un moment, aujourd'hui la question palestinienne et avant tout cela, encore une fois, la question palestinienne. Il y a quelque chose dans ce Proche-Orient, vu sa géographie, vu les enjeux politiques, l'histoire, qui fait qu'il reflète des malaises dans la civilisation internationale, mondiale, et qui reflète en même temps ce qu'il y a de plus beau et ce qui peut être de plus beau dans les sociétés civiles à travers le monde.
Dominique Moïse, comment vous expliquez cette résurgence de l'implication des opinions publiques bien au-delà des frontières du Moyen-Orient ? Et je prendrai peut-être deux faits qui se sont produits cette semaine. Cette attaque près d'une synagogue à Manchester avec deux morts juifs le jour de Kippour. Et cette grande manifestation samedi en soutien au peuple palestinien. 70 000 personnes dans les rues de Barcelone.
Non, en 2008, je parlais du Moyen-Orient comme de la matrice des relations internationales, en mettant l'accent sur le poids des émotions. Et je voyais le ressentiment en Israël, l'humiliation chez les Palestiniens. Hélas, ces catégories sont toujours présentes et contribuent à expliquer ce qui se passe. Alors, vu mon âge, je vois la sympathie pour les Palestiniens, l'empathie pour eux dans les rues européennes, elle me rappelle le Vietnam dans les années 60. Et vous avez d'un côté les Palestiniens qui sont les Vietnamiens d'aujourd'hui, et de l'autre vous avez l'érosion du temps et le fait que la Shoah disparaît dans les mémoires. Ces images sont remplacées par celle de Gaza. Et d'une certaine manière, une des choses les plus terribles à dire, c'est que la campagne d'Israël à Gaza a tué en partie la Shoah dans la conscience des peuples européens. Elle existe, mais de moins en moins. Et donc, c'est... Voilà.
Michel Taubman, vous partagez cela ?
Écoutez, moi, ce que je pense, pour dire brièvement mon souhait, saisisse cette opportunité pour mettre un pied dans la porte entre Trump, Poutine, les pays du Golfe, et pour se racheter de deux boulets historiques qui pèsent sur les Européens, la colonisation et la Shoah. Et je pense que l'Europe, qui n'est pas une puissance militaire, peut être aussi un soft power, peut être aussi une puissance culturelle, économique. D'ailleurs, les principales relations économiques et commerciales d'Israël sont avec l'Union européenne. Et que ce qu'a fait le président Macron a paru symbolique, et c'était effectivement symbolique, mais on a vu quand même que ça a pesé sur la situation. Et je pense que là, l'Europe doit être une force qui pèse, pour rapprocher Palestiniens, Israéliens et pour ouvrir des négociations larges vers un processus de paix.
Merci infiniment à tous les quatre d'être venus en direct pour décrypter ce qui se passe au Proche-Orient et si c'était bien notre miroir. On passe à vos coups de cœur très rapidement. Allez-y Amélie Ferret.
Alors moi, un coup de cœur, justement, donc c'est un coup de cœur pour nourrir l'espérance, pour donner une vision aussi positive, si tant est qu'on puisse. C'est un artiste palestinien qui s'appelle Saint Levant, qui mélange en fait du R&B, du rap et de la musique traditionnelle orientale, qui est né donc en 2000 et qui a grandi à Gaza, dans un hôtel que sa famille avait qui s'appelle Deira, et qui d'ailleurs c'est le nom de son album. Et donc il explique qu'il vient du pays qui donne vie aux olives, je trouve la formule très belle, et donc je vous invite à l'écouter pour montrer que les Palestiniens ne sont pas que des victimes, mais on a aussi une génération brillante, pleine de de promesses pour l'avenir et pour aussi rappeler qu'on n'est pas que des esprits, mais on est aussi des corps. Et donc, vive la musique.
Merci. Je rappelle que vous êtes Amélie Ferret, responsable du laboratoire de recherche sur la défense à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À vous, Ziad Majed.
Oui, très rapidement. Moi, je conseille d'aller visiter l'expo sur Gaza à l'Institut du monde arabe.
À Paris.
À Paris, Gaza, 5000 ans de civilisation, où on voit à quel point ce territoire est marqué par les civilisations et par l'existence palestinienne.
Je rappelle que vous êtes politiste, professeur à l'université américaine, auteur du Proche-Orient, miroir du monde que j'ai promis d'offrir à Dominique Moïsi. Alors je vous l'offre et je vous laisse nous dire très rapidement votre coup de cœur, vous qui êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne.
Eh bien, mon coup de cœur est très très loin du Moyen-Orient, très très loin du conflit israélo-palestinien. Il est l'inverse absolu du film israélien dont vous vouliez parler au départ, oui. Ça s'appelle Touch. C'est un film islandais qui raconte une histoire d'amour entre un Islandais et une Japonaise. Et ça se passe entre Londres et Hiroshima. Et c'est une merveille.
Merci.
De délicatesse.
Dominique Topman, en deux mots.
Michel Topman, oui, moi...
Michel Topman, pardonnez-moi.
Je suis ici en Israël et je propose un livre sur le judaïsme qui s'appelle « L'anthologie de la pensée de Manitou » qui est publié en français par les éditions Elkana. Et Manitou, c'était un penseur juif qui a reconstitué la pensée juive après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et il est important de lire ça aujourd'hui pour voir que le judaïsme, ce n'est pas seulement un nationalisme.
Merci.
Et que le judaïsme ne se réduit pas à une pensée nationaliste, guerrière, comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui.
Merci, voilà. Michel Topman, journaliste franco-israélien, responsable du dossier Proche-Orient pour la revue Politique Internationale, fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe. Shalom, salam, merci infiniment à tous les quatre. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur l'application Radio France et toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine à 11h. Bel après-midi sur France Culture. Merci de nous avoir écoutés.